Alors, bonjour à tous. Ce matin, je vais évoquer un thème qui vous paraîtra peut-être un petit peu risqué ou glissant ou déplacé. Je ne sais pas comment vous le sentirez. Je vais d'abord vous expliquer pourquoi j'en suis venue à choisir ce thème. Je viens de Normandie, où on a un centre de vacances. On reçoit beaucoup de groupes tout l'été. Et on a eu un camp d'adolescents. Et la question qui revenait chez ces jeunes, c'était la question du diable, du mal, de Satan. Qu'est-ce qu'on doit en comprendre? Qu'est-ce qu'on doit en penser? Comment on réagit? Voilà cette première question. Et puis récemment, je lisais les nouvelles sur le site de la BBC, sur mon téléphone, et un des gros titres, c'était une cérémonie d'inauguration assez particulière. Vous en avez peut-être entendu parler. Il y a une statue de 2,75 m, statue en bronze, qui a été installée devant un temple. Alors, sauf que c'est un temple satanique à Détroit. Donc une statue de 2,75 m qui représente, alors c'est un corps humain, une tête de bouc, et la statue est entourée d'enfants qui adorent cette statue. Voilà, donc le but de la cérémonie était clairement de provoquer. Et pour donner une note un petit peu plus positive, c'est qu'au moment de cette inauguration, une église catholique voisine a décidé de réunir ses fidèles, et 250 personnes étaient rassemblées là pour adorer Dieu, pour prier, voilà. Mais toutes ces remarques, ces lectures m'ont amené à mon tour à m'interroger sur le diable. On n'en parle pas toujours, on essaie un peu de l'oublier, mais voilà, c'est une question qui est revenue, et je me demandais effectivement où est-ce le diable, qui est-il, où se cache-t-il? On dit que le diable est tapis quelque part, alors est-ce qu'on peut en savoir plus? Et puis, comment combattre ce qu'on ne voit pas? On vit dans un monde visible. L'aspect matériel importe, il importe parfois peu. Et voilà une façon de sentir que nous aussi, on peut avoir un monde invisible autour de nous qu'on ne perçoit pas. Je ne nous identifie pas à des dauphins et des... Mais voilà, ça peut être une façon de réfléchir à la réalité dans laquelle on vit. Alors, la statue de Détroit... ils ont choisi là-bas de représenter un diable avec une tête de bouc. Bon. Dans la première épître de Pierre, au chapitre 5, on parle d'un lion rugissant. Et je vous propose de lire ce passage dans l'épître de Pierre. Alors, on peut se souvenir que l'apôtre Pierre, c'est celui qui a renié Jésus, qui a été pardonné. Et lorsqu'il s'adresse aux chrétiens, et qu'il leur parle du diable, son but, c'est vraiment de les encourager. Ce n'est pas de leur faire peur et de les mettre KO, mais vraiment de les encourager comme lui, il l'a été encouragé et renouvelé. Donc, gardons ça à l'esprit quand on lit ce passage. Donc, 1 Pierre, chapitre 5, versets 6 à 11. « Tenez-vous donc humblement sous la main puissante de Dieu, pour qu'il vous élève au moment qu'il a fixé. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car il prend soin de vous. Ne vous laissez pas distraire, soyez vigilants. Votre adversaire, le diable, rôde autour de vous comme un lion rugissant qui cherche quelqu'un à dévorer. Résistez-lui en demeurant ferme dans votre foi, car vous savez que vos frères dispersés à travers le monde connaissent les mêmes souffrances. Mais quand vous aurez souffert un peu de temps, Dieu, l'auteur de toute grâce qui vous a appelé à connaître sa gloire éternelle révélée en Jésus-Christ, vous rétablira lui-même. Il vous affermira, vous fortifiera et vous rendra inébranlable. À lui soit la puissance pour toujours. Amen. » Et avant de continuer, je voudrais prier. Seigneur, je te prie ce matin pour que ta parole nous touche, pour qu'elle nous parle, pour qu'elle nous éclaire, pour que ta parole qui est vivante soit notre espérance. Amen. Alors, on va commencer par s'intéresser au diable. Lorsque les adolescents qui étaient à Corny ont eu ces interrogations, j'ai tout de suite pensé à la très large question du mal. J'ai aussi pensé à des choses un peu plus particulières, un peu plus spectaculaires, à toutes ces pratiques occultes, obscures, qui existent. Et on en a un exemple à Détroit, il y a des choses peut-être moins visible, mais ce côté obscur existe. Et l'occultisme est apparemment assez populaire. Je pense aussi au film sur l'exorcisme, où en général, il y a des foules qui se précipitent, il y a des crises hystériques. Bon, voilà, c'est une réalité. Dans les évangiles, il y a des histoires de possession, de personnes possédées. Mais dans ces cas, ces cas sont rares. Dans la Bible, ils sont rares, ils sont dans le Nouveau Testament. Et dans notre société, c'est encore plus rare, c'est vraiment quelque chose d'exceptionnel. On ne rencontre apparemment ces cas de possession que dans des situations précises, dans un contexte missionnaire et dans des territoires non chrétiens. Donc là, je m'appuie sur un article du dictionnaire de théologie pratique édité par Christophe Paya et Bernard Huc qui explique bien que ces cas existent, mais ce sont des situations vraiment particulières. Et dans le Nouveau Testament, lorsque l'Église naît, ces cas de possession disparaissent. C'est-à-dire que dans un contexte chrétien, dans le contexte de l'Église, on est confronté à une autre forme de mal. Et on peut remarquer aussi que la Bible, dans son ensemble, n'insiste pas sur cette présence des démons, du diable. Si on compare la Bible à d'autres textes de la même époque, dans d'autres cultures, eh bien la Bible minimise cette présence. C'est beaucoup plus présent dans les autres cultures. Et la Bible affirme que seul Dieu est Dieu. C'est une évidence. On l'a dans Deutéronome 6, au verset 4. « Écoute Israël, l'Éternel est notre Dieu, il est le seul Éternel. » La foi en un Dieu unique, en Dieu le Créateur, qui est au-dessus de tout, rend inévitablement toutes les autres puissances, visibles ou invisibles, secondaires, inférieures. Et même si Satan est présent dès la Genèse, il y a bien le serpent dans la Genèse, le mal a beaucoup moins d'importance, comme je l'ai dit, que dans les autres cultures. Et de toute façon, son action est toujours subordonnée à la puissance divine, à la permission divine. On peut penser à l'histoire de Job, où c'est Dieu qui permet, mais c'est Dieu qui relève aussi. Le serpent dont je parlais, le serpent dans la Genèse, voilà ce qui lui arrive à ce serpent. Genèse 3, verset 14. « Puisque tu as fait cela, te voilà maudit parmi tout le bétail et les animaux sauvages, tu traîneras sur le ventre et tu mangeras de la poussière tout au long de ta vie. » Le diable, dès la Genèse, mange la poussière. Il faut s'en souvenir. Pourtant, Pierre insiste quand même sur cette présence, sur ce danger que représente le diable. Et il nous encourage à rester attachés à Dieu, à nous en remettre à la puissance de Dieu. Au verset 6, il dit « Tenez-vous donc humblement sous la main puissante de Dieu pour qu'il vous élève au moment qu'il a fixé. » Il nous invite à résister, il nous encourage à résister au diable, à être courageux et ferme. Verset 9, « Résistez-lui en demeurant ferme dans votre foi. » C'est par la foi qu'on peut résister. Alors le danger est bien là. Personnellement, je n'ai jamais fait face à un lion rugissant. Vous connaissez peut-être l'itinéraire d'un enfant gâté, hein ? C'est exactement ça, le danger, on le confronte. En tout cas, l'image nous parle. Hein ? Je crois qu'on saisit bien l'image dangereuse, la dangerosité de ce lion et donc du diable. Alors aujourd'hui, majoritairement, le diable est soit peu populaire, un peu oublié, ou totalement oublié, parce qu'on ne le voit pas, soit au contraire, il fait l'objet d'un culte, comme à Détroit, comme vous avez entendu parler des tombes profanées aussi. Il y a cette partie un peu... Il y a finalement deux extrêmes, l'oubli ou l'idolâtrie. Mais d'une manière un peu générale, le diable ne fait plus tellement peur. Il n'y a plus ce qu'on pouvait avoir, par exemple, au Moyen-Âge. Le diable ne fait plus tellement peur parce qu'on ne le voit pas. Et il se fait oublier parce qu'il est invisible. Et pourtant, il est là, et il est entré dans notre réalité, dans nos vies, avec le péché. C'est ce qu'on lit dans Genèse. Et le diable, il ne peut pas s'attaquer à Dieu. Il est de toute façon inférieur, il n'y arrivera de toute façon pas. Donc, il ne peut pas s'attaquer à Dieu, il s'attaque à ses créatures, il s'attaque aux hommes, à nous. Alors le diable lui-même est invisible, mais le péché, il est bien là. Il est bien présent dans notre quotidien. Ce lion rugissant, il rôde, il est tapis dans le péché. Alors, le péché, est-ce que ça ne nous concerne pas tous? Est-ce qu'on n'est pas tous pécheurs, comme le dit Paul dans l'Épître aux Romains? Ce péché, justement, le péché, ben c'est l'arme du diable, c'est l'arme qu'il a pour agir. Alors le mal n'est pas quelque chose de mystérieux, ce n'est pas le côté obscur de la force, pour faire une autre référence cinématographique. Le monde lui-même n'est pas simplement divisé entre d'un côté le bien et de l'autre le mal. Les choses sont bien différentes. Le mal est entré dans la création, une création qui est œuvre de Dieu et qui est bonne. Elle a été créée, ce monde a été créé parce que Dieu nous aime. Si le diable appartient au monde invisible, le mal qu'il cause, lui, est bien, bien visible et bien réel. Et on le perçoit dans les tentations qui nous assaillent tous les jours. Je crois que là aussi, on connaît tous cela. Alors, je ne donnerai pas des exemples, mais je vais lire simplement le verset 9 dans l'Épître de Pierre, où il dit « Il encourage les chrétiens à se souvenir que vos frères dispersés à travers le monde connaissent les mêmes souffrances. » C'est vraiment l'universalité de cette présence du péché dans nos vies. Jean, dans son évangile, parle, lui, des œuvres du diable. Alors, je vais lire Jean 3, verset 8. « Celui qui s'adonne au péché appartient au diable, car le diable pêche dès le commencement. Or, le Fils de Dieu est précisément apparu pour détruire les œuvres du diable. » Ces œuvres du diable, C.S. Lewis, si vous connaissez C.S. Lewis, qui est l'auteur des Chroniques de Narnia, c'est pour ça qu'on le connaît, il a écrit aussi des tas de livres sur la vie et la foi chrétienne. Il a écrit un livre qui en français s'appelle « Tactique du diable ». Et dans « Tactique du diable », alors en fait il y a l'histoire en toile de fond d'un jeune homme qui se convertit, qui vit une foi chrétienne, qui rencontre une chrétienne, qui tombe amoureux d'elle, qui va aussi être confronté, enfin être face au bombardement à l'époque de la Seconde Guerre mondiale en Angleterre, à Londres. Ça, c'est ce qui se passe en toile de fond. C'est l'histoire qu'on devine derrière quelque chose qui se passe au premier plan. Au premier plan, c'est un échange de lettres entre un certain Screwtape et Wormwood. Alors, Screwtape, c'est un diable expérimenté, on va dire, qui a un petit peu de la bouteille, comme on dit. Et puis Wormwood, c'est l'apprenti. Il découvre, il essaie de faire tomber ce jeune homme. Voilà, le but de son travail, sa mission, si on peut dire, c'est d'arriver à conduire ce jeune homme, non pas au salut, mais à la damnation. Évidemment, il échoue, lamentablement, et Lewis nous livre une version comique de ces œuvres du diable. Et au lieu d'avoir une histoire triste, parce que cette histoire se termine par la mort du jeune homme, eh bien, on a finalement l'histoire d'une âme qui est sauvée et la représentation fictive, mais quand même bien percutante, de l'échec total du diable. Le jeune homme a résisté, il n'a pas cédé. Ce que veut faire Louise dans son livre, c'est finalement rendre visible ce qui habituellement est invisible. Alors, le jeune homme, lui, n'est pas du tout conscient de ce qui lui arrive. On perçoit que le jeune homme est un petit peu naïf et il n'est pas conscient de ces tactiques du diable, de cet échange épistolaire entre les deux diables. Voilà. Et malgré les efforts de Screwtape et de son neveu, le jeune homme reste ferme, fidèle. Pourquoi ? Parce qu'il est protégé par Dieu, le Père, à qui il a donné sa vie. Il est protégé par l'amour de Dieu. Et on comprend que la bataille se joue finalement dans des sphères un peu invisibles. Vous savez, comme les batailles de Narnia, elles se passent, la vraie bataille du bien contre le mal, elle se passe dans un espace imaginé, quand on a passé à travers l'armoire. Eh bien, dans le monde que nous connaissons, que nous voyons, Dieu agit au travers de nos malheurs, au travers des tentations que Satan nous envoie. Et le diable, lui, alors là, je vais utiliser une image que m'a suggérée Fred, le diable, lui, utilise ses subalternes pour agir. Comme le lion qui envoie les lionnes chasser, Satan, lui, il reste tapis dans les profondeurs et il envoie ses petits diables. Alors là, on le voit bien avec Screwtape et les deux personnages, mais voilà, la réalité du diable, elle se manifeste dans des petites choses de la vie de tous les jours. Et là, on a la représentation comique, finalement, de cet échec. Échec qui fait écho à ce qui se passe dans la Bible, à ce qui est annoncé dans la Bible. La Bible affirme que le diable a de toute façon perdu la bataille. Dès Genèse 3, on l'a vu, le serpent est condamné à ramper dans la poussière. Dans le Nouveau Testament, Jésus lui-même est tenté, il est conduit au désert. Alors il est conduit au désert par l'Esprit et le tentateur, il ne peut rien faire. Jésus est conduit par l'Esprit, on le lit dans Matthieu 4 au verset 1. Dieu permet la tentation, mais il ne permet pas la victoire du tentateur. Dieu veille, la gloire du Seigneur éclaire tous les autres êtres spirituels invisibles, et la gloire du Seigneur désarme le diable. Le lion du passage de Pierre ne nous dévorera pas. Alors on le lit dès le verset 7 et 8 dans le passage dans 1 Pierre 5. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car il prend soin de vous. Ne vous laissez pas distraire, soyez vigilants. Dieu prend soin de vous. Si nous livrons à Dieu nos inquiétudes pour aujourd'hui, si nous confions en lui, si nous plaçons en lui notre espérance pour notre avenir, alors nous remporterons le combat par la grâce de Dieu. Je cite la première épître de Jean au chapitre 3, verset 8. Je l'ai déjà cité. Le Fils de Dieu est précisément apparu pour détruire les œuvres du diable. Le diable, lui, n'a que des tactiques, il n'a que sa ruse pour essayer de nous conduire au péché. Dieu, lui, il a l'amour, un amour inconditionnel, infini. Dieu est amour. Et là, je veux redonner cette parole de Jean, chapitre 3, verset 16. Oui, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, son unique, pour que tous ceux qui placent leur confiance en lui échappent à la perdition et qu'ils aient la vie éternelle. C'est par l'amour de Dieu qu'on a la vie éternelle et qu'on a la victoire. Alors ce message, finalement, de Pierre, qui nous parle du diable, ce message est plein d'espérance. Et c'est le point sur lequel je voudrais insister maintenant, cette espérance. Ce passage, cette image du lion, peut nous rappeler aussi, par exemple, le moment où le petit David est confronté à Goliath. David, donc ça c'est dans premier livre de Samuel, au chapitre 17. David, c'était un berger sans prestige, et il se retrouve face à un géant mesurant près de 3 mètres. Voilà comment est décrit Goliath. David aurait pu réagir comme les autres, c'est-à-dire comme le roi Saül et son armée, qui, je cite, « furent démoralisés et une grande peur s'empara d'eux ». C'était une réaction possible face à ce géant. Mais David, lui, il était du côté de Dieu. Il savait que Dieu était avec lui et qu'il combattait pour Dieu. Alors il est arrivé avec sa fronde. Goliath ne voyait même pas une fronde, il voyait un bâton. Il parle de ce bâton. Que vas-tu faire avec ce bâton ? Et parce qu'il ne voit pas que Dieu est là, qu'il est là bien qu'invisible, Goliath se trompe. Et David répond au géant, « Tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot, et moi je marche contre toi au nom de l'Éternel, le Seigneur des armées célestes, le Dieu des bataillons d'Israël que tu as insulté. » Et David remporte la victoire. Avec un bâton, c'est vrai, mais surtout avec Dieu, parce que Dieu est avec lui. Alors, ce passage est un bel encouragement pour nous, source d'espérance. Et lorsqu'on lit le passage dans Pierre, où Pierre nous parle d'un lion, c'est une autre image des puissances qui s'opposent à Dieu. Ça peut être le colosse, ça peut être le lion. Ce lion, C.S. Lewis va à nouveau, je parle de C.S. Lewis, il va utiliser lui aussi l'image du lion, et là, cette fois-ci, c'est dans Narnia, mais en faisant le lion de Juda, en fait. Le lion qui est victorieux, le lion Aslan, qui est l'image du Christ qui va sauver le territoire de Narnia et qui est le symbole du salut qui remporte la victoire. Et ce retournement, cet autre lion qui cette fois est source d'espérance et de salut, ce retournement, il prend place aussi dans nos vies. Ça n'est pas qu'une belle histoire imaginée, il n'y a pas d'armoire magique dans nos vies, mais la victoire est remportée. La foi, la confiance, l'espérance font partie de nos vies, malgré parfois les situations dans lesquelles nous sommes. On peut le lire dans Romains, chapitre 8, verset 24, qui nous parle d'espérance. « Or, voir ce que l'on espère, ce n'est plus espérer. Qui en y fait continue à espérer ce qu'il voit ?» Nous sommes invités à espérer, même si parfois les circonstances nous invitent à avoir une attitude contraire. Nous aspirons à ce qu'on ne voit pas, à ce que Dieu a promis. Alors le diable, il est présent, il est bien là. Dans Jean 8, verset 44, on lit que le diable est père du mensonge. Alors Jean 8, verset 44, « Depuis le commencement, c'est un meurtrier. Il ne tient pas dans la vérité, parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il ment, il parle de son propre fond, puisqu'il est menteur. Lui, le père du mensonge. » Voilà une description du diable. On ne peut pas se fier à lui. Il est le mensonge. Mais il n'est pas omniscient. Il ne sait pas tout. Il n'est pas omniprésent. Il est limité. Il a lui-même été créé. Seul Dieu est Dieu. Seul Dieu est omniscient et connaît tout de nous. Seul Dieu est omniprésent, toujours là avec nous. Seul Dieu est créateur. On peut le lire dans Jacques, que tu as évoqué tout à l'heure. Premier chapitre, verset 17. « Tout cadeau de valeur, tout don parfait nous vient d'en haut, du Père qui est toute lumière et en qui il n'y a ni changement, ni ombre due à des variations. Il n'y a que Dieu qui est ainsi. » Les œuvres mauvaises du diable sont donc bien notre lot quotidien, mais Dieu a déjà remporté la victoire car Jésus a pris nos péchés en mourant sur la croix. Il règne déjà auprès du Père. Pierre nous le dit au verset 10, « Mais quand vous saurez souffrir un peu de temps, Dieu, l'auteur de toute grâce, qui vous a appelé à connaître sa gloire éternelle dans l'union à Jésus-Christ, vous rétablira lui-même. Il vous affermira, vous fortifiera et vous rendra inébranlable. » Face aux tentations et aux souffrances, Paul aussi nous encourage dans le chapitre 8 de l'Épître aux Romains. J'ai déjà évoqué le chapitre 8. Là, j'insiste sur les derniers versets, 38 à 39. Je vous invite à lire tout le passage, mais je lirai les versets 38 et 39. « Oui, j'en ai l'absolue certitude. Ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni ce qui est en haut, ni ce qui est en bas, ni aucune autre créature. Rien ne pourra nous arracher à l'amour que Dieu nous a témoigné en Jésus-Christ, notre Seigneur. » Alors cette promesse incroyable, cette si belle promesse, n'efface pas notre responsabilité. Et Pierre, qui écrit sa lettre pour encourager les chrétiens, il rappelle aussi qu'on a certaines attitudes à adopter. Il appelle ses lecteurs à l'humilité. Verset 6, à la confiance, à la vigilance, à la résistance, résister au diable. Dans la version de la Nouvelle Bible Second, on lit « Opposez-vous à lui, opposez-vous au diable ». C'est encore plus fort que résister. Ça indique une action positive, j'allais dire. Donc, comptons sur Dieu plutôt que sur nos propres forces, afin de résister. Choisissons les bonnes armes, ces armes qui sont décrites dans Éphésiens. L'Épître aux Éphésiens, au chapitre 6, versets 10 à 14, voici les armes que nous avons dans nos mains pour résister au diable et pour nous appuyer sur Dieu. Je lis. « Tenez donc ferme, ayez autour de la taille la vérité pour ceinture et revêtez-vous de la droiture en guise de cuirasse. » Ayez pour chaussure à vos pieds la disponibilité à servir la bonne nouvelle de la paix. En toutes circonstances, Saisissez-vous de la foi comme d'un bouclier avec lequel vous pourrez éteindre toutes les flèches enflammées du diable. Prenez le salut pour casque et l'épée de l'esprit, c'est-à-dire la parole de Dieu. Alors ça veut dire, lisons la Bible, prions, faisons confiance à Dieu, cherchons la vérité. Alors pour conclure, je dirais que nous avons une vision limitée du monde dans lequel nous vivons, sans doute. Une des grandes préoccupations ou un des grands intérêts de Louis, c'était de se demander s'il n'y avait pas d'autres vies ailleurs dans l'espace. Alors vous avez entendu parler, là, je crois, des découvertes de planètes qui pourraient être très semblables à la Terre. Voilà, en tout cas, il y a un monde qu'on ne perçoit pas. Les enjeux sont de toute façon plus vastes qu'on ne les perçoit. Et notre monde visible cache et parfois révèle un monde invisible. Quoi qu'il en soit, Dieu nous promet un avenir plein d'espérance. Jésus dit à ses disciples, peu avant la Passion, au chapitre 16 de l'Évangile de Jean, verset 33, « Dans le monde, vous aurez à souffrir bien des afflictions. Mais courage, moi, j'ai vaincu le monde. » Avant même la Passion, Jésus affirme, « J'ai vaincu le monde. » Et Pierre nous dit que Dieu nous relèvera au moment qu'il a fixé. Dans notre vie de tous les jours, sur terre, à nous de continuer à résister aux tactiques du diable, à ses tentations. Alors ce n'est pas simple, mais voilà, il y a quand même des encouragements que nous recevons. Je vous ai lu le passage de Pierre. J'aimerais vous lire aussi un passage dans la première épître aux Corinthiens, au chapitre 10 et au verset 13. Les tentations qui vous ont assaillis sont communes à tous les hommes. D'ailleurs, Dieu est fidèle et il ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Au moment de la tentation, il préparera le moyen d'en sortir pour que vous puissiez y résister. Nous avons donc un encouragement et nous recevons aussi une vision qui, elle aussi, nous encourage et nous promet un avenir encore plus beau que ce qu'on aurait nous-mêmes imaginé. Je voudrais vous lire le passage dans Apocalypse, chapitre 22, les versets 3 à 5. Il n'y aura plus aucune malédiction. Le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la ville. Ses serviteurs lui rendront un culte. Ils verront sa face et porteront son nom sur leur front. Il n'y aura plus jamais de nuit. On n'aura donc plus besoin ni de la lumière d'une lampe, ni de celle du soleil, car le Seigneur Dieu répandra sur eux sa lumière, et ils régneront éternellement. Alors je crois qu'on peut proclamer avec l'apôtre Pierre ce qu'on lit au verset 11, « À lui, à Dieu, soit la puissance pour toujours. » Amen.